France Info.
De beauté.
Merci beaucoup Christine Peña de...
Oui, c'est moi.
Oui, voilà, c'est bien vous. De nouvelles prévisions complètes dans une dizaine de minutes. Merci à tous d'écouter France Info. Il est 5h. Et à la une de ce 2 février, les Grammys qui se transforment en tribune politique aux États-Unis. Vous allez entendre la superstar Bad Bunny qui s'en prend à l'ICE, la police anti-immigration controversée soutenue par Donald Trump. À la une aussi, Israël qui consent à rouvrir à partir d'aujourd'hui l'une des portes de Gaza pour faire sortir des civils, mais c'est encore extrêmement limité. Dans l'actualité également, l'extrême droite qui remporte un siège de député après une législative partielle en Haute-Savoie. Et puis les JO, ça commence cette semaine à Milan-Cortina en Italie. On fera le point sur les chances des tricolores. C'était cette nuit donc les Grammys, les Oscars de la musique aux États-Unis, cérémonie très attendue chaque année par le milieu, et parmi les vainqueurs, il y a lui. Bad Bunny, originaire de Porto Rico, citoyen américain de ce territoire des Caraïbes, l'un des artistes les plus écoutés de la planète. Il fera le show à la mi-temps du prochain Super Bowl et il s'attaque donc à l'ICE, cette police anti-immigration très controversée, nous le disions, soutenue par le président américain qui a tué plusieurs personnes dans des manifestations à Minneapolis. Bad Bunny qui a vertement critiqué l'ICE au moment où il a reçu le prix de la meilleure musique latine urbaine.
Before I say thanks to God,
avant de remercier Dieu,
I'm gonna say,
je vais dire
ice out,
ice dehors. Nous ne sommes pas des sauvages, nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas des aliens, nous sommes des humains et nous sommes des Américains.
Voilà pour ce discours de Bad Bunny. Autre artiste qui a critiqué l'ICE, Billie Eilish. La chanteuse qui remporte avec ce que vous entendez, White Flower, le Grammy de meilleure chanson de l'année. Elle déclare, elle, qu'il faut simplement continuer à nous battre, à prendre la parole et à manifester. Voilà ce qu'elle dit donc face à la police anti-immigration. France Info, il est 5h02. Des civils vont enfin pouvoir passer par le passage de Rafah entre la bande de Gaza et l'Égypte. C'est ce qu'a annoncé hier Israël. C'est une première depuis 2 ans maintenant. Tout cela sous la pression des États-Unis dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu au Proche-Orient. Mais Michel Paul, les conditions de sortie restent extrêmement drastiques.
La journée de dimanche a servi de test grandeur nature pour valider la logistique et la sécurité, mais c'est bien ce lundi matin que les grilles du terminal s'ouvrent véritablement. La priorité absolue est donnée aux urgences humanitaires. Le quota quotidien prévoit la sortie de 50 patients gazaouis, chacun accompagné de 2 proches, soit 150 départs pour seulement 50 entrées vers l'enclave, un rythme encore très loin de répondre aux besoins, alors que 20 000 malades attendent toujours des soins à l'étranger. Ce sont désormais des employés de l'autorité palestinienne qui gèrent le site sous le contrôle d'une mission de l'Union européenne. L'armée israélienne garde un œil grâce à un contrôle technologique à distance. Et ce lundi devrait marquer également l'arrivée attendue d'une partie du comité des technocrates. Ces experts entrent dans Gaza avec une mission ambitieuse, poser les premiers jalons d'une nouvelle administration pour le territoire.
Merci Michel Paul, RFI à Jérusalem pour France Info. Qu'est-il arrivé au petit Émile? Rappelez-vous d'Émile Soleil, disparu en juillet 2023 dans le hameau du Haut-Vernay, dans les Alpes de Haute-Provence. Les ossements et des vêtements de l'enfant ont été retrouvés 9 mois plus tard. Ce matin, une information France Info, une 20aine de demandes d'actes d'investigation supplémentaires viennent d'être déposées par l'avocat de la grand-mère du petit garçon, souvenez-vous, un temps soupçonné. Les grands-parents du petit Émile demandent donc désormais aux enquêteurs d'explorer d'autres hypothèses que cette piste familiale, David Di Giacomo.
Pas question pour la grand-mère du petit Émile de rester les bras croisés, assure son avocat. Elle veut savoir ce qu'il s'est passé. Voilà pourquoi Julien Pinelli demande aux 2 juges d'instruction en charge de ce dossier de lancer de nouveaux actes d'enquête.
Nous estimons qu'un certain nombre d'investigations complémentaires doivent être conduites, qu'il s'agisse de la visite de certains sites au hameau du Haut-Vernay, qu'il s'agisse de certains témoignages qui, de notre point de vue, mériteraient quelques compléments, ou encore de l'étude de la téléphonie qui pourrait être, je crois, utilement approfondie. Encore une fois, il ne s'agit pas de concurrencer d'une quelconque façon le travail admirable conduit par les enquêteurs. Néanmoins, nous espérons naturellement que le résultat de ces recherches, eh bien, nous permettra d'éclaircir les circonstances dans lesquelles le petit Émile Soleil a perdu la vie.
C'est très probablement un coup violent donné à la tête qui a provoqué la mort du petit Émile. Si ses grands-parents demandent aux enquêteurs de s'intéresser à d'autres hypothèses, la piste intrafamiliale n'est toujours pas refermée par les gendarmes. Faute de charges suffisantes, à ce jour, aucune mise en examen n'a été prononcée dans cette affaire.
Merci David Di Giacomo, chef du service police-justice, pour cette info France Info. Jamais un député d'extrême droite n'avait été élu en Haute-Savoie, mais Antoine Valentin, candidat UDR-RN de 33 ans, a remporté hier le second tour de la législative partielle qui était organisée dans la troisième circonscription du département. 59,1% des suffrages exprimés selon les résultats officiels encore provisoires face à un adversaire LR. À Christophe Fournier. Richard Vivion, vous vous êtes rendu à Saint-Jeoire, en Savoie.
Il est un peu plus de 20h quand les résultats officiels sont annoncés.
Antoine Valentin sort vainqueur à 59%.
45 minutes plus tard, le nouveau député Antoine Valentin vient retrouver ses partisans dans le gymnase de Saint-Jeoire, commune de 3600 habitants dont il est le maire.
Cette circonscription, elle avait glissé au fur et à mesure des renoncements et des alliances contre nature des Républicains vers le centre et le socialisme. Elle redevient, à compter d'aujourd'hui, une circonscription à droite, car je suis ce soir le député de droite de la 3e circonscription de Haute-Savoie.
Jean-Marc et Dominique ont tous les deux voté pour le candidat de l'UDR, soutenu par le Rassemblement National.
Il fait le boulot. Donc s'il fait le boulot, les gens votent pour lui. Voilà, outre parti politique et toutes ces choses-là.
La gauche, la droite, le centre. Maintenant, ces partis ne valent plus rien du tout. Moi, je suis pour des hommes qui tiennent un discours, qui tiennent la route et qui défendent les citoyens.
Et pour Christophe Fournier, le candidat Les Républicains, largement battu par Antoine Valentin, la percée historique de l'extrême droite en Haute-Savoie, doit faire réfléchir.
Chacun devra s'interroger sur les résultats de cette élection, qui en dit long sur l'état d'esprit de nos concitoyens et sur la nécessité de faire de la politique autrement.
Et ce scrutin a également été marqué par une très forte abstention. Près de 7 électeurs sur 10 ne sont pas allés voter.
Un reportage ici, Pays de Savoie, signé Richard Vivion pour France Info. De la Ligue 1 avec une victoire pour le Paris Saint-Germain, le club de la capitale réduit à 10, s'est tout de même imposé 2-1 en clôture de la 20e journée. Il reste premier du championnat de football. Un autre match hier, Nice-Brest, qui se solde par un 2-2. Victoire 1-0 cette fois de Metz en déplacement à Angers. Il va falloir se désintoxiquer de la musique de Victor Lemann. Les JO 2026 de Milan-Cortina s'ouvrent cette semaine et voilà leur hymne. Vous allez beaucoup l'entendre sur France Info. Vous pourrez suivre les épreuves. Elles commencent déjà après-demain avec du curling au programme. La cérémonie d'ouverture, ce sera vendredi. On la suivra également sur France Info. Et alors, que vont faire les Français? La délégation tricolore n'a jamais été aussi importante pour les Jeux d'hiver. 162 athlètes, une équipe de France qui vise un top 5 au classement des nations et un record de médailles, Nicolas Perronnet.
34 podiums déjà cet hiver et 11 victoires. Le biathlon sera encore le premier fournisseur de médailles françaises en Italie. Lou Jean Monod et Éric Perrault en première ligne cette fois pour la Razzia. Le ski alpin tricolore a également performé ces dernières semaines sur le circuit Coupe du Monde et particulièrement les slalomeurs, le porte-drapeau Clément Noël et la révélation Paco Rassat seront attendus. Du métal espéré également du côté du freestyle dans le sillage de la patronne du ski de boss Perrine Laffont qui visera un deuxième titre olympique. Ajoutez à cela le duo Guillaume Cizeron et Laurence Fournier-Baudry en danse sur glace. Des médailles quasi assurées pour Emilia Ropp et Thibaut Anselmet dans la nouvelle discipline du ski alpinisme et des espoirs en patinage de vitesse et en ski de fond. Au vu des résultats, de l'augmentation du nombre d'épreuves et d'athlètes engagés, les prédictions accordent à la France une vingtaine de médailles. Si elles se réalisent, le record de 15 médailles décrochées à Pyeongchang en 2018 et Pékin en 2022 serait donc largement battu.
Merci Nicolas Perronnet. Et puis ce n'est peut-être pas du niveau des JO, mais la Coupe du Monde de l'œuf mimosa avait lieu ce week-end. Institution j'adore. Culinaire, hein, Christine, à ne pas confondre surtout avec oui. L'œuf maillot, hein, c'est pas pareil, hein, l'œuf mimosa. Et c'est le restaurant Grain de Soleil qui est sacré à Bormes. Les mimosas, évidemment, c'est là qu'avait lieu cette compétition pour la toute première fois. Christine Peña, oui. On a déjà parlé œuf mimosa avec vous, on va parler météo tout de même, avec encore de la pluie.
Encore de la pluie, oui, pour changer. Ouais, voilà, je vais vous annoncer de la pluie, du vent, de la neige en montagne. On parlera de nouveau d'un épisode méditerranéen là, qui se prépare pour aujourd'hui. Hein. Les pluies seront conséquentes cet après-midi surtout. De chute de neige sur les Pyrénées qui enregistre pour ce mois de janvier là, qui vient de finir, des hauteurs de neige records autour des Pyrénées. Pyrénées-Orientales notamment, et ce mois de février le sera sans doute aussi, puisque ce temps perturbé n'est pas près de s'arrêter. Aujourd'hui, on a un temps calme, relativement bien ensoleillé sur le Lyonnais, et les frontières du Nord également vont se dégager d'ici cet après-midi au nord de la Seine. Voilà, ça restera calme.
Merci beaucoup Christine Peña, 5h10.
France Info, le monde d'Élodie.
Bonjour, c'est Élodie Suigo. Je vous retrouve du lundi au vendredi sur France Info. Cinéma, théâtre, littérature, musique, sport. Chaque jour, je vous propose un entretien sous forme de portrait avec un artiste autour de son actualité.
Le monde d'Élodie, c'est toute la semaine à 5h20 et 10h50 sur France Info.
À venir d'ici 5h30 sur France Info, la fin imminente du feuilleton budget. Il sera selon toute vraisemblance adopté définitivement ce soir. Et maintenant, qu'est-ce qui attend le Premier ministre? Décryptage du service politique à venir. Et puis nous irons aussi à la rencontre de médecins retraités qui reprennent le travail dans le Vaucluse où l'on manque de docteurs. Mais d'abord, cette quinzaine de morts de plus en Ukraine.
France Info, 5h-6h, William Gecosta.
Mort dans une nouvelle série d'attaques de drones dans le centre-est du pays menée par la Russie, l'une sur un bus dans la région de Dnipro. Tout cela alors que des négociations directes entre Kiev, Moscou et Washington doivent reprendre aux Émirats Arabes Unis mercredi. L'Ukraine l'a confirmé hier, mais il n'y a pas de confirmation du côté de la Russie et des États-Unis. Alors le but de ces discussions, c'est de trouver une issue à la guerre, mais les frappes continue. Alors comment interpréter cette attitude de la Russie? Jean de Glignasti est l'ancien ambassadeur de France à Moscou.
Quand il y avait des 200 ou 300, même 600 drones la nuit sur Kiev, il y avait un mort ou deux. Là, d'un seul coup, c'est 15 morts. Donc c'est énorme, ça implique, ça signifie une pression beaucoup plus grande mise sur l'Ukraine. Alors malheureusement, l'histoire montre que c'est au moment des négociations, et surtout au moment les plus cruciaux des négociations, que les combats s'intensifient le plus. Les Américains avaient bombardé Hanoï au moment des négociations entre Kissinger et le Duc Tho. Chaque fois qu'il y a une négociation qui s'amorce, chacun veut montrer sa force, prendre des gages, avoir les meilleures cartes. Et donc, en général, ça se manifeste par une intensification des combats.
Donc ça veut dire, selon vous, Jean de Glignasti, qu'on entre dans un moment charnière?
Alors, je ne sais pas s'il est charnière, l'histoire le dira, mais en tout cas, il est clair qu'on n'a jamais été moins éloigné d'un accord de paix. On en est loin encore. Mais il y a eu ces derniers temps des petits progrès. Alors,
par exemple,
les Américains et les Ukrainiens sont tombés d'accord pour dire qu'il ne restait plus qu'un seul point, important certes et même terriblement important et qui peut tout faire capoter, la question territoriale. Alors, quand on dit ça, on dit « bon, bah, c'est formidable », mais malheureusement, Ushakov, le conseiller diplomatique du président Poutine, a dit « oui, la question territoriale, c'est important, c'est la plus importante de toutes, mais ce n'est pas la seule, il reste encore des choses à régler ». Donc, ça touche un peu les espoirs. Mais il n'en reste pas moins que le processus de négociation s'est accéléré, qu'après Abu Dhabi, il y a eu une rencontre entre Dmitriev, l'envoyé spécial de Poutine, et Witkoff à Miami. Et donc, il y a une espèce d'accélération de la navette américaine. Et quoi qu'en dise Ushakov, c'est clair que quand on aura réglé la question territoriale, et vous savez que...
Oui. Très épineux.
Les Russes veulent obliger les Ukrainiens à évacuer la partie du Donbass que les Russes n'occupent pas encore. Et évidemment, c'est inacceptable pour Zelensky. Et pour l'armée ukrainienne, ça serait se faire harakiri et c'est tout aussi inacceptable. Donc, on n'a jamais été moins éloigné, mais on est quand même encore très loin.
Tout de même, vous nous le dites, il y a très peu de chances, voire aucune chance, que l'Ukraine cède sur cette question des territoires.
Il y a très très peu de chances. Alors les Américains ont proposé une solution de compromis, si je puis dire, avec l'idée d'une zone tampon économique, avec un armement minimal et qui serait en partie du côté russe de la ligne de démarcation militaire actuelle et qui permettrait d'intégrer en quelque sorte la partie que les Russes n'occupent pas encore dans la totalité de l'oblast du Donbass, qui, je rappelle, a été annexé par la Russie. L'oblast, en fait, c'est Donetsk. Hein. Et donc, malheureusement, cette formule a été accueillie avec beaucoup de réticence et par les Ukrainiens et par les Russes. Mais il y a des compromis possibles quand même.
Jean de Glignasti, la frappe de Dnipropetrovsk, elle a touché un bus qui ramenait des travailleurs chez eux. Il y a eu aussi une autre frappe russe qui a touché une maternité à Zaporijjia. Dans les deux cas, on parle de civils. Plus que jamais, le but de la Russie, c'est aussi de briser le moral des Ukrainiens.
Je crois que oui. Je crois que les Russes... Alors, la maternité, si vous voulez, on ne peut pas vraiment... savoir, enfin, j'imagine que c'est, il y a des chances en tout cas pour que ça soit, j'allais dire, un dégât collatéral, ça n'est pas exclu. En revanche, le bus qui vient de la coquerie, enfin de l'usine à charbon, ça c'est pas un hasard. Et en tapant sur le bus, on sait qu'on va faire beaucoup de morts, et donc ça fait partie du grand plan qui consiste en fait à geler la population, à la démoraliser en hiver. Il fait très froid, il fait moins 20 dans la région. Et les Russes espèrent qu'en s'attaquant aux infrastructures énergétiques, ils casseront le moral de la population. Je suis pas sûr que ça soit le résultat, mais bon, en tout cas, c'est ce qu'ils cherchent à obtenir.
Jean de Glignasti, ancien ambassadeur de France à Moscou, directeur de recherche à l'IRIS, qui répondait aux questions France Info de Marc Potvin. La politique réserve parfois des coups de théâtre spectaculaires, mais il n'y en aura sans doute pas aujourd'hui. Le Premier ministre Sébastien Lecornu ne sera sans doute pas, encore une fois, renversé par l'Assemblée nationale qui examine en fin d'après-midi les ultimes motions de censure sur le budget de l'État 2026. Bonjour Aurélie Herbemont.
Bonjour à tous.
Service politique de France Info. Ces motions, elles vont être rejetées. Le budget 2026 sera donc considéré comme adopté. Et donc, une question que tout le monde se pose à l'approche des municipales de 2027 aussi. Qu'est-ce qu'il restera désormais sur le bureau du Premier ministre ?
Oui, même si Sébastien Lecornu est conscient que le temps utile sera bref, de fin mars à fin juillet, car avant, il y a les municipales et après l'été, la présidentielle monopolisera la vie politique. Pour le Premier ministre, il s'agit de faire mentir ceux qui l'imaginent uniquement gérer les affaires courantes. Gabriel Attal juge ainsi le quinquennat fini après l'adoption du budget 2026. Il y a aussi ce chef de parti qui ironise. Lecornu va amuser la galerie avec la décentralisation et ne fera rien d'autre.
Mais tout de même, Aurélie, Sébastien Lecornu, il compte faire avancer d'autres dossiers ?
Oui, car selon lui, certains sujets ne peuvent pas attendre 2027. En haut de la pile, il y a la loi de programmation militaire. Sébastien Lecornu rêve d'une promulgation avant le 14 juillet. Le Premier ministre a aussi promis une nouvelle loi agricole. Un de ses ministres veut également que la loi sur la fin de vie aboutisse avant l'été. Et il faut ajouter le ministre de l'Intérieur qui a dans les cartons des textes sur la police municipale, la sécurité du quotidien. Gérald Darmanin à la justice pousse pour un projet de loi visant à renforcer l'efficacité de la politique pénale. Une loi logement fait aussi partie des priorités du Premier ministre, sans oublier la mise sur les rails de l'allocation sociale unique. Bref, beaucoup de sujets pour lesquels il va falloir trouver des créneaux au Parlement dans un calendrier contraint, le tout sans majorité. Sébastien Lecornu entend donc poursuivre sa stratégie du compromis. Il recevra dans les prochains jours les patrons des groupes à l'Assemblée et au Sénat, hors RN et LFI, pour essayer d'identifier des voies de passage.
Merci beaucoup Aurélie Herbemont du service politique de France Info. Et on le rappelle, ces motions de censure contre le gouvernement Lecornu seront examinées à l'Assemblée à partir de 17h. On suivra tout cela évidemment sur France Info. Faute de médecins, des praticiens retraités reprennent leur stéthoscope. Mais vous allez l'entendre, ils le font avec entrain. Reportage dans le Vaucluse après un nouveau point complet sur l'actualité de ce lundi.
France Info.
5h-6h.
Bonjour Maureen Suignard.
Bonjour à tous.
À 5h20, avec vous, c'est l'heure de l'info en une minute et à la une. Donald Trump qui dit espérer un accord avec l'Iran.
Le président américain menace toujours Téhéran d'intervenir militairement dans le pays si le régime réprime encore les manifestations et s'il ne conclut pas d'accord sur le nucléaire. Le guide suprême met lui en garde contre un risque de guerre régionale. Cette volonté de Donald Trump de conclure un accord fait chuter les cours du pétrole de 3% sur les bourses asiatiques. Deux motions de censure contre le gouvernement encore étudiées tout à l'heure, déposées par la France Insoumise et le Rassemblement National. Si elles sont toutes deux écartées, le budget 2026 sera définitivement adopté. C'est une première en Haute-Savoie. L'extrême droite remporte un siège de député lors d'une élection législative partielle hier. Antoine Valentin, candidat du parti UDR d'Éric Ciotti, est élu face à un candidat Les Républicains. Seuls 34% des inscrits ont voté. Et puis le PSG retrouve la première place du podium de la Ligue 1 après la 20e journée. Les Parisiens se sont imposés 2-1 face à Strasbourg hier soir. Lens et Marseille sont 2e et 3e.
France Info. Ils ont plus de 70 ans, ils ont pris leur retraite, mais certains docteurs du Vaucluse reprennent donc du service pour aider ceux qui n'ont pas de médecin traitant. Jeanne Mézia, vous nous emmenez donc à Monteux où l'on peut prendre rendez-vous dès aujourd'hui avec plusieurs médecins généralistes ou alors des néphrologues, des cardiologues, des endocrinologues dans ce qu'on appelle un centre médical municipal transitoire. L'établissement a été créé par la mairie. Il emploie les retraités pour leur activité et le but, à terme, c'est que des jeunes médecins viennent s'installer ici. Jeanne Mézia, donc, vous avez pu rencontrer ces médecins retraités volontaires et ils sont enthousiastes.
C'est un peu leur rentrée des classes. Ces retraités retrouvent leur table de consultation aujourd'hui et en sont ravis.
Notre fin de vie, c'est la vie.
Marielle Lafont a 75 ans et souhaite aider les personnes qui ne trouvent pas de médecin.
L'idée que des patients actuellement fragiles, âgés, qui sont en infection endurée, qui ont des polypathologies, qui sont handicapés, puissent rester sur le bord de la route et ne soient pas pris en charge, ça c'est quelque chose pour moi qui est totalement insupportable.
Elle et son mari Jean-Pierre ont travaillé pendant de longues années dans leur cabinet de Morières. Jean-Pierre n'a jamais vraiment arrêté d'exercer et à 77 ans, il compte bien encore continuer.
Moi je compte à vivre jusqu'à 96 ans. Donc je m'arrêterai 2 ans avant, ça fera 94.
Cette motivation est aussi partagée par Régine Seyé, qui voulait retrouver une activité.
Je viens de Sorgues, j'ai 70 ans et je m'ennuyais, c'est pas vrai, mais j'avais envie de reprendre, j'avais envie de retravailler, de revoir des patients. C'est la richesse de notre métier.
Elle viendra plusieurs fois par semaine.
C'est 2 ou 3 selon les semaines, selon le dispo de chacun.
Ils sont en tout 7 médecins généralistes et 3 spécialistes à se relayer. Dans ce cabinet, tout est fait pour leur faciliter la vie. Pas de paperasse, seulement les consultations. De toute façon, ces retraités n'auraient pas accepté de reprendre du service avec toutes les contraintes du libéral, explique Marielle Lafont.
La mairie met à disposition les locaux, met à disposition le secrétariat, toute la logistique, parce que ça faisait partie du deal. On va peut-être mobiliser des retraités, mais il faut que ces retraités ils soient confortables, en sécurité, sans contraintes administratives, et qu'on ait plaisir à venir travailler. C'est-à-dire pas se dire, je viens le matin, non, au contraire, qu'on soit content d'y venir.
Et puis, il faut le rappeler, chacun a sa vie.
On est parents, grands-parents, on a 6 petits-enfants qui nous prennent du temps aussi, hein. On les abandonne pas pour autant. Hein. Puis quand même, on n'a pas la santé pour être là tous les jours aussi. Quand même, il faut savoir qu'on n'est plus très jeune. Donc il faut quand même qu'on se ménage un peu.
À terme, tous espèrent que cette nouvelle dynamique attirera des soignants qui ne sont pas retraités.
Un reportage ici Vaucluse, signé Jeanne Mézia pour France Info. Il est 5h23, partons pour le monde d'Élodie. Avec ce matin, le leader de Status Quo.
Bonjour Francis Rossi.
Good morning.
Vous êtes le cofondateur et le chanteur du groupe Statu Quo, le seul et unique membre depuis la disparition de Rick Parfitt à avoir traversé toutes les époques sans aucune interruption. Ensemble, vous les Frantic Four, vous avez enregistré plus de 60 tubes classés dans les charts du Royaume-Uni, parmi lesquels 22 ont atteint le top 10. On pense à Hello, Pictures of Matchstick Men, Whatever You Want, In the Army Now, Down Down, Blue for You, Undelevel, Caroline. Aujourd'hui, cette même énergie saute aux oreilles dans votre nouvel album intitulé The Accidental. Ce qu'on comprend, c'est que vous aimez l'imprévu, finalement. Vous aimez être surpris vous-même, Francis Rossi ?
Oui, beaucoup. C'était très bien pour la première fois de ne pas avoir de paramètres, d'être dans un groupe. Vous savez, ce côté démocratique, comme on le sait tous, la démocratie, ça ne fonctionne pas. Dans un groupe, il faut permettre à chacun d'avoir leur mot à dire ou leur chanson. Alors que là, quoi qu'il arrive, je faisais ce que je voulais depuis 3-4 ans. Il y a eu un sens de libération qui m'est arrivé. Je ne sais pas d'où ça vient. Quoi que je veuille faire, on le fait. Donc, ce que je fais, des trucs avec les voix que je n'aurais jamais fait avant. Vous savez, quand vous êtes dans un groupe, les gens vont se moquer de vous. Et il y a une chanson là-dedans qui avait besoin de ça. Elle était trop basse. Et donc, je suis revenu enregistrer. Je l'ai enregistré comme ça. C'était très gênant, bien sûr. Mais 2 semaines plus tard, ça ne l'était plus. C'était comme ça que sa chanson devait être. Donc, j'ai commencé à poser ma voix différemment de d'habitude. J'ai pas beaucoup de voix, mais j'ai commencé à... Aujourd'hui, je l'utilise mieux, du coup. Et tout ça m'a donné un sens de liberté, de nouveauté, de fraîcheur. Donc, il me reste encore beaucoup de temps avant que je sois saoulé de cet album.
Il y a un vrai sens, il y a une vraie histoire qui est racontée dans cet album, dans ce projet que vous aimez tant. Ça commence par Much Better et ça termine par Time to Remember. C'est-à-dire qu'à la fois, vous mêlez les anciens et les jeunes. Est-ce que c'est pas ça aussi le sens de la vie, le sens de ce que vous avez toujours proposé ?
Vous avez l'air de comprendre ça encore mieux que moi, hein. Vraiment. Il y a tellement d'accidents qui sont arrivés. Comment est-ce que c'est arrivé ? Je n'en sais rien. Mais ça me fait très plaisir d'être là où je suis en ce moment. Comme vous le dites, j'ai 76 ans. C'est bête, c'est stupide, en fait. Je devrais être à la maison, en train de me relaxer, et à laver mes fausses dents, et à parler comme ça. Mais non. Encore une fois, je suis excité par ce qui se passe. Il y a des moments où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais, là ? Je ne sais pas, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui a besoin de ça, que ce soit de l'adulation, que ce soit de la validation de la part des gens, je ne sais pas ce que c'est. Mais je vois souvent, vous savez, le bâton avec la carotte, vous savez, pour l'âne, pour qu'il avance, je crois que je poursuis cette carotte depuis tellement d'années. Mais qu'est-ce qui se passe quand on atteint la carotte ? Je ne veux pas atteindre la carotte, parce que y aller, essayer de l'atteindre, ça fait tellement plaisir. Surtout ces 5 dernières années où je n'aurais jamais cru qu'à mon âge, j'aurais recommencé. Je suis vraiment très excité par tout ça.
Vous avez été adopté très tôt en France. Il y a j'ai l'impression, un amour de la France particulier pour vous. En tout cas, le public a toujours été présent. Est-ce que quand vous venez en France, il se passe quelque chose d'essentiel ?
Oui, c'est drôle que vous disiez ça, parce que ça fait des années que je sais qu'il y avait les Who, les Pink Floyd et nous, les 3 groupes british qui pouvaient faire des trucs ici. Mais il y avait quelque chose de spécial avec le public français. Vous gardez concentré, parce que vous jouez une chanson populaire. Les gens sont comme des fous, et dans la plupart des territoires, après ça, vous avez le public. En France, vous jouez votre tube, et après, ils se calment et me disent « Vas-y, fais-moi voir quelque chose d'autre ». Ça faisait très peur, mais au fur et à mesure des tournées françaises, on finit par apprécier qu'ils écoutent. Et ça, c'était un bonus, en fait, à l'époque.
Je voudrais que vous me parliez juste d'une chanson de Be My Love. Il y a un truc avec cette chanson. Cet album, c'est un tête-à-tête avec nous, et c'est un tête-à-tête avec vous. Est-ce qu'il vous correspond ? Est-ce que l'image que vous regardez dans le miroir aujourd'hui vous plaît ?
Non, I don't. Je suis très heureux. Avant de rentrer, je voyais les retours vidéo et je ne voulais pas regarder. Je ne regarderai pas parce que je ne sais pas qui est cette personne. Je sais qui est à l'intérieur. Mais si ça va aux gens, tant mieux. Donc, je n'ai pas à faire trop attention à qui ça ne plaît pas. Ils vont me hanter. Ils voient la peau qui pend et les cheveux qui s'en vont et les yeux qui tombent. Donc, je ne pense pas à lui, là, à cette carcasse, c'est juste le gars qui est à l'intérieur qui m'intéresse.
Alors le gars à l'intérieur s'appelle Francis Rossi et je voudrais vous remercier justement Francis d'être passé dans le monde d'Élodie sur France Info. Si vous aimez le son à la britannique comme on dit, mais le vrai son, celui qui fait du bien, n'hésitez pas à écouter cet album. The Accidental est donc disponible. Merci beaucoup.
Thank you, man.
Et merci beaucoup Élodie Suigo. On retrouve votre monde d'Élodie sur l'application Radio France. Allez, on jette un coup d'œil au temps.
France Info Météo, avec la Maison des Travaux. Rénovation, décoration, extension. La Maison des Travaux, un interlocuteur unique pour réussir vos travaux partout en France.
C'est le statu quo, hein, oui, dans le ciel, ça, Christine Peña, le défilé des perturbations se poursuit.
Ah bah c'est très bien, ouais, elle est assez rock'n'roll d'ailleurs, cette météo pour ce 2 février. Le temps n'évolue pas et il ne changera pas d'ailleurs cette semaine. Le défilé des perturbations, vous le disiez, se poursuit. Nous restons dans ce flux atlantique perturbé. Les pluies arrivent par la façade atlantique, mais dès ce matin, entre la Bretagne et les Charentes, puis elles progresseront en direction du centre du pays. Paris sera concerné, mais seulement dans la soirée par ces pluies. De façon générale, le temps restera calme avec des éclaircies au nord de la Seine, à l'est également jusqu'au Lyonnais, et puis plus au sud, on a des remontées méditerranéennes, là aussi de la pluie sur le Languedoc jusqu'en Provence, jusqu'au sud du Massif central avec du vent fort. Il soufflera très fort d'ailleurs sur les crêtes pyrénéennes et il va encore bien neiger sur les Pyrénées aujourd'hui. Les températures ce matin, il fait très doux d'ailleurs, tiens, du côté du Pays Basque, 15 degrés ce matin, alors qu'il fait 1 degré à peine à Rennes, à Alençon, 3 à 5 en Ile-de-France, 4 à Strasbourg, 8 à Lyon. Oh, je préfère écouter du rock'n'roll, moi.
Je vous comprends, mais elle est bien votre météo quand même, Christine Peña. On adore vous écouter tous les matins. Merci beaucoup. Au programme d'ici 6h sur France Info. Désolé, je mets fin à la musique, Christine. Au programme donc un témoignage fort, celui d'un professeur d'université de Gaza. Il réagit à cette grande annonce hier d'Israël, la réouverture du passage de Rafah et la possibilité pour des Gazaouis d'enfin sortir de l'enclave. Après 2 ans de fermeture, cela reste extrêmement drastique tout de même. Et puis un portrait aussi à venir de la championne du monde senior de bowling. Elle a 76 ans, elle est française. Elle part en quête d'un titre européen. Rendez-vous dans 20 minutes. Pour l'heure, il est 5h30. Faisons un nouveau tour complet de l'actualité.
France Info. William Gecosta.
Russes, Américains et Ukrainiens doivent se réunir à nouveau autour de la même table. Mercredi, annonce l'Ukraine, sans confirmation américaine ou russe pour le moment. Ces discussions, évidemment, elles visent la fin de la guerre, mais pour l'instant, cela semble toujours très compromis. Cette guerre est toujours aussi dure pour les Ukrainiens, avec 15 nouveaux morts lors d'une frappe russe sur un bus rempli de civils. Hier, dans la région de Dnipro, des drones Théo-Renaudon ont visé des travailleurs de la principale entreprise énergétique du pays.
Hier, en fin d'après-midi, des employés d'une mine de charbon rentrent chez eux après une journée de travail. C'est alors qu'un premier drone Shahed s'écrase sur la route du bus. L'onde de choc renverse le car, puis un deuxième drone suicide vise directement le véhicule accidenté. Ces mineurs s'attelaient à extraire du charbon, ressource essentielle pour l'Ukraine, qui cherche par tous les moyens à produire un maximum d'électricité. Son réseau énergétique étant continuellement ciblé par la Russie. Cette attaque, en pleine séquence de négociations, est une nouvelle preuve de l'agressivité de l'armée russe envers les civils, selon Volodymyr Zelensky.
Cette attaque contre un bus dans la région de Dnipro est un crime odieux qui démontre une fois de plus que la Russie est responsable de l'escalade. Le mal doit être arrêté.
Le cessez-le-feu énergétique respecté tout au long de la semaine dernière est donc stoppé net par cette attaque russe.
Les précisions de Théo Renaudon, RFI pour France Info à Odessa, en Ukraine. Le bilan s'alourdit après l'incendie de Cran Montana en Suisse le soir du réveillon. Un des blessés est mort à l'hôpital. 41 personnes ont donc perdu la vie en raison de ce feu dans le bar Le Constellation. Le commissaire européen à l'industrie, Stéphane Séjourné, et plusieurs centaines de grands patrons appellent à encourager la préférence européenne dans une tribune qui est publiée ce matin dans la presse pour privilégier les achats de marchandises ou d'équipements fabriqués en Europe et donc renforcer une forme de patriotisme économique. Tout cela en réponse aux mesures protectionnistes qui sont prises un peu partout ailleurs dans le monde. Fabien Cazot.
Face à un monde qu'on croyait révolu, fait de menaces douanières et de concurrence déloyale, l'Union européenne doit muscler son jeu sans toutefois s'affranchir du droit international et tomber dans le piège de la brutalité que d'autres cherchent à lui imposer. Tel est le message de ce texte rédigé par le vice-président de la Commission, Stéphane Séjourné, et co-signé par plusieurs centaines de patrons européens. Sans qu'il soit nommé une seule fois, c'est bien à Donald Trump que le Made in Europe se veut une réponse. Il est temps, selon les signataires, de mieux le promouvoir, notamment en abaissant les coûts de l'énergie et en sécurisant les approvisionnements en matières premières. De Michelin à Sanofi, en passant par les chantiers navals italiens Fincantieri ou encore le chimiste belge Solvay, l'ensemble des grands secteurs industriels sont représentés parmi les signataires, ainsi que plusieurs syndicats. Un large soutien, veut croire la Commission, à ces réformes, notamment celle de simplification administrative, lancée l'an dernier au nom de la compétitivité économique européenne.
Fabien Cazot, le correspondant correspondant de France Info à Bruxelles. Le budget de l'État français 2026, après des mois de discussions parlementaires, sera sans doute adopté définitivement ce soir, à condition que les motions de censure déposées contre le gouvernement de Sébastien Lecornu soient rejetées par les députés. C'est évidemment le scénario le plus privilégié. L'Assemblée qui comptera bientôt un nouvel élu d'extrême droite. Le candidat ciottiste s'est imposé hier au second tour d'une législative partielle en Haute-Savoie. Antoine Valentin, allié du RN, donc, élimine le candidat Les Républicains. Scrutin marqué par une très forte abstention. 6 électeurs sur 10 ne se sont pas déplacés. Et puis un mot des Grammys, les Oscars de la musique. C'est toujours en cours à Los Angeles aux États-Unis. Kendrick Lamar a reçu le Grammy de l'enregistrement de l'année pour Luther. White Flower de Billie Eilish reçoit le Grammy de la chanson de l'année. Et puis à l'instant, Bad Bunny, le portoricain, reçoit le Grammy de l'album de l'année qui s'intitule Debí tirar más fotos. Vous me pardonnerez mon accent espagnol. Il est 5h34 sur France Info. Bienvenue.
France Info. 5h-6h. William Gecosta.
Et revenons désormais à cette annonce de l'État hébreu hier, la réouverture très partielle, mais la réouverture du point de passage de Rafah entre l'enclave palestinienne de Gaza et l'Égypte. Ce point de passage, il était fermé aux civils depuis 2 ans maintenant, quasiment depuis le début de la guerre au Proche-Orient après les attaques du 7 octobre. Cette annonce, elle a de quoi susciter à la fois de l'espoir, mais aussi de l'amertume sur place. Agathe Mahué a pu joindre pour France Info Ziad Medouk. Il est professeur de français à l'Université de Gaza.
Dans la bande de Gaza, il y a un double sentiment de partagé. D'abord, il y a un sentiment de satisfaction que ce passage va s'ouvrir de nouveau après presque 2 ans de fermeture. Et surtout que ce passage va permettre à des malades, à des patients, à des étudiants, à des familles de quitter l'enclave détruite et dévastée pour rejoindre donc soit les hôpitaux, soit leurs universités, soit leurs proches et leurs familles. Ça, numéro un. Mais il y a un sentiment de colère et d'indignation parce que le contrôle de passage, ça sera toujours côté israélien. Ça veut dire les observateurs européens qui seront sur le passage, ils vont recevoir la liste des Palestiniens de Gaza qui vont sortir, vont envoyer les noms à examiner côté israélien. Et après, c'est eux qui, les Israéliens, vont donner le feu vert. Et donc, s'il y a un refus israélien de n'importe quelle personne, donc ça risque soit de ne pas quitter Gaza, soit de ne pas revenir à Gaza de l'extérieur, notamment de l'Égypte. Donc, si les noms sont validés par les autorités israéliennes, ces patients, ces malades peuvent sortir de Gaza.
Avec un nombre limité ?
Le nombre restreint, parce qu'ils ont dit seulement 50 personnes qui vont revenir et 150 personnes qui vont sortir. Donc le nombre est très limité par rapport aux besoins énormes, surtout pour les patients et blessés et malades qui attendent leur évacuation rapide. Donc il faut attendre les semaines qui viennent pour voir comment le passage fonctionne.
Est-ce qu'il y a aussi beaucoup d'étudiants, vous qui êtes professeur, beaucoup d'étudiants qui cherchent à partir ?
Oui, il y a un nombre considérable, je pense 1500 à 1700 étudiants qui sont inscrits dans les universités, soit égyptiens, soit arabes, soit européens, et qui attendent depuis 2 ans leur sortie de Gaza. Et donc, je pense que ça sera la deuxième priorité. Mais je pense que la priorité, ça sera pour les malades, les patients, après les étudiants. Puis pour les chercheurs, professeurs et les regroupements familiaux, ça sera une deuxième ou troisième priorité.
Et tout ça a lieu alors que le cessez-le-feu n'est pas respecté?
Bien sûr, parce que hier, il y a 32 morts et 75 blessés palestiniens dans la bande de Gaza suite à des bombardements israéliens et des incursions militaires. Donc, ça montre d'une part que la réalité sur place, le contexte est très dur, que le cessez-le-feu n'est pas respecté, il y a la violation au quotidien. Et troisième aspect, c'est ça le plus important, que jusqu'à maintenant, il n'y a pas une vraie application de plan de Trump. Ça veut dire, nous, les Palestiniens de Gaza, on n'a pas senti un changement dans la vie quotidienne. Il y a toujours la pénurie de l'eau potable, la pénurie de gaz, la pénurie d'électricité, la pénurie des médicaments, les projets de reconstruction, ils n'ont pas encore commencé. Donc, les choses n'avancent pas vraiment comme prévoit le plan de Trump. Donc, on doit attendre. Je pense, à mon avis, il faut attendre 2 ou 3 semaines pour voir l'évolution de la situation, soit au niveau de l'accélération de l'aide humanitaire internationale, parce que jusqu'à maintenant, l'aide est limitée, et la bonne volonté de soit l'administration américaine, qui devrait faire pression sur le gouvernement israélien afin de faciliter les déroulements ou l'application à deuxième phase, notamment l'ouverture de tous les passages qui relient la bande de Gaza à l'extérieur, et surtout le début de la reconstruction de la bande de Gaza.
Autour de vous, vous sentez quand même que ça apporte un peu d'espoir, cette nouvelle étape ?
Écoutez, il y a deux éléments de réponse. Donc, personnellement, moi, je suis toujours optimiste. Donc, je garde espoir. J'espère qu'il y aura un changement. Pour le moment, les choses n'avancent pas trop. La réalité est dure sur place. Deuxième aspect, si je vais parler au nom des Palestiniens de Gaza, il y a beaucoup d'autres qui sont pessimistes parce que ils voient que les choses n'avancent pas. La poursuite des bombardements, ils voient les morts, les blessés, la destruction. Il ne voit pas grand changement, à part petite amélioration au niveau de la nourriture. Mais il y a beaucoup de produits et de matériaux qui ne passent pas. Beaucoup de matériel médical et beaucoup de médicaments qui ne passent pas. Donc jusqu'à maintenant, les gens sont un peu pessimistes. Ils n'ont pas de perspective parce qu'ils voient que depuis trois mois après l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu, les choses n'avancent pas. À mon avis, si vraiment on veut arrêter le cercle de violence, il faut absolument appliquer les accords signés et surtout mettre pression sur le gouvernement israélien afin qu'il ouvre les passages et qu'il permette la reconstruction rapide de cette région dévastée et détruite après 29 mois de cette offensive terrible contre la population civile de Gaza.
Ziad Medouk, professeur de français à l'Université de Gaza, qui répondait aux questions France Info d'Agathe Mahué. Voilà un site qui a de plus en plus de succès. Il compte des millions d'utilisateurs. Il s'appelle Polymarket. Il ne vous dit peut-être rien, mais c'est l'un des plus importants sites de paris en ligne dans le monde où l'on peut miser sur vraiment tout et souvent n'importe quoi. Il est d'ailleurs interdit en France. Bonjour Boris Loumagne.
Bonjour à tous.
Vous nous plongez ce matin, Boris, dans cet univers à la fois fascinant et indécent.
Oui, rien n'échappe à Polymarket. Vous pouvez parier sur tout ou presque en répondant à chaque fois par oui ou par non. Exemple, est-ce que les États-Unis vont frapper l'Iran d'ici vendredi ? Oui ou non ? Est-ce que Jésus reviendra sur Terre en 2026 ? Oui ou non ? Est-ce que la Russie va capturer le village de Liman en Ukraine ? Est-ce que Elon Musk va tweeter d'ici la fin de la semaine ? Vous pouvez aussi parier sur le prochain président de la République française, sur le futur maire de Nice ou de Paris, mais aussi sur cette question d'actualité. Est-ce que Marine Le Pen va gagner son procès en appel dans l'affaire des assistants parlementaires ? Je vous donne la cote, 70% des parieurs pensent qu'elle va être condamnée.
Alors Boris, il y a donc actuellement une dizaine de paris ouverts sur l'actualité française, mais nous le disions, Polymarket est interdit en France.
Oui, théoriquement, c'est impossible de parier de l'argent depuis la France, mais quelques Français y parviennent. Ils se servent d'un VPN, ce logiciel qui permet de géolocaliser de manière fictive votre ordinateur à l'étranger. C'est ce que fait Tristan, que j'ai contacté. Tristan est traducteur de métier. Il a 30 ans et il a découvert Polymarket il y a quelques mois avec un thème de prédilection.
Je suis parti surtout sur la politique, c'est-à-dire des élections où t'es quasi certain. Donc le premier pari que j'avais fait, c'était sur Caste contre Jarrah, c'était au Chili. Donc j'avais mis 5 000 $, je crois, si mes souvenirs sont bons, et j'avais dû gagner dans les 200-300. En ce moment, par exemple, tu as les élections au Portugal, donc c'est Ventura qui est du parti de Chega, qui est un parti d'extrême droite, et donc il n'y avait absolument aucune chance qu'il gagne. Donc j'ai pris une position à 5 ou 6% avec du 20-25 000 dessus, donc ça te permet de gagner à peu près 1 000 balles.
Vous l'entendez, Tristan est un parieur malin. Il parie quand il est sûr du résultat. Alors forcément, les cotes et donc les gains ne sont pas très importants, mais en investissant environ 25 000 $ avec un rendement de 5 à 6%, il a réussi, en 3 mois, à obtenir une coquette somme.
Sur les gains, je dois être à 2500-3000 aujourd'hui. C'est un objectif de livret à améliorer, on va dire, entre guillemets, quoi.
Alors, je vous ai dit que Tristan était un parieur malin, et pourtant, il me raconte qu'il vient de parier sur, je cite, « Est-ce que les États-Unis vont annoncer d'ici 2027 l'existence des aliens ?» Et il a parié oui. Seulement 12% de chance, ça paraît risqué, mais ça ne l'est pas tant que ça. En fait, dans ce cas-là, le Français ne compte pas aller au bout du pari. Il veut revendre ses parts de oui quand le cours aura à baisser, mettons à 6% de chance contre donc 12 aujourd'hui. Il doublera alors ses gains. C'est un peu comme du trading en fait. Et beaucoup de joueurs jouent de cette façon sur Polymarket.
Et que risquent Tristan et les autres parieurs français, Boris, si les autorités découvrent qu'ils jouent, qu'ils parient sur Polymarket ?
Eh bien, j'ai posé la question à Pascal Reynaud. Il est avocat spécialiste des jeux d'argent en ligne.
Le joueur n'est pas pénalement inquiété. Ceux qui risquent pénalement quelque chose, c'est les opérateurs de jeux illégaux, mais pas les joueurs. Les joueurs, qu'est-ce qu'ils risquent ? Ils risquent l'addiction, ils risquent de perdre tout ce qu'ils ont, ils risquent la fraude, etc. Mais ils risquent rien au niveau pénal.
Et les risques de fraude dont parle l'avocat, c'est en partie pour cela que Polymarket est interdit en France. Il faut dire que les délits d'initiés se multiplient sur la plateforme. L'exemple le plus marquant, c'est cet Américain anonyme qui a parié 33 000 $ sur la chute de Nicolas Maduro, quelques heures seulement avant le déclenchement de l'opération secrète visant à enlever le président vénézuélien. Le joueur a empoché 430 000 $. Et puis, Polymarket serait aussi, selon certains, un pouce au crime. En janvier dernier, alors que les flammes ravageaient Los Angeles, des parieurs ont été suspectés d'avoir provoqué des départs de feu. Pour réussir leur pari, ils avaient misé sur le nombre d'hectares brûlés.
Merci beaucoup pour ces précisions très instructives. Boris Loumagne, là vous pourrez miser sur des sites légaux. Les JO d'hiver de Milan-Cortina s'ouvrent officiellement vendredi. Ils se voulaient écolo. On va vérifier si c'est vrai dans une minute.
France Info. 5h-6h.
6h moins le quart sur France Info, c'est l'heure d'un nouveau tour complet de l'info avec vous Maureen Suignard. Et à la une, la politique qui s'invite à la cérémonie des Grammys.
La cérémonie qui récompense les meilleurs artistes, chansons et albums américains de l'année. Le chanteur Bad Bunny a appelé à mettre dehors la police américaine de l'immigration ICE. Très critiquée ces dernières semaines, deux personnes ont été tuées à Minneapolis lors de manifestations contre ICE. Il demande aux Américains de ne pas se laisser contaminer par la haine. Côté récompense, c'est Billie Eilish qui reçoit le Grammy de la chanson de l'année pour Wildflower. Le budget 2026 peut être définitivement adopté ce soir. Les députés doivent d'abord se prononcer sur deux motions de censure déposées par le Rassemblement National et la France Insoumise. Quatre motions ont déjà été écartées pour ce budget. Les producteurs laitiers inquiets veulent se faire entendre. Ils dénoncent la pression des industriels sur les prix et veulent donc aussi une meilleure rémunération. La Fédération des producteurs appelle ses adhérents à mener des actions auprès de coopératives, des industriels ou encore des supermarchés cette semaine. Les Français en or, les Bleus conservent leur titre de champion d'Europe de vitesse par équipe. Ils se sont imposés avec 6 millièmes d'avance.
France Info.
La cérémonie d'ouverture, ce sera vendredi et les épreuves commencent même dès mercredi. Le compte à rebours arrive à son terme pour les Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina au cœur de ce choix de France Info. Les épreuves auront lieu dans trois régions différentes du nord de l'Italie. Tout cela pour réutiliser au maximum les infrastructures sportives existantes. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour.
Correspondant en Italie de France Info. Alors dans ce choix de France Info, focus sur une promesse de jeu écolo. Malgré les efforts, elle n'est pas vraiment tenue.
Un tour dans Cortina, toujours au milieu des chantiers, avec Silverio Lacedelli, militant écologiste historique de la ville.
Ce serpent devant nous, c'est la piste de bobsleigh.
Les abords restent en travaux, la piste des JO de 1956 devait être réaménagée pour moins de 50 millions d'euros. Trop compliqué, un site flambant neuf a été construit à la place en à peine plus d'un an pour 120 millions. Des centaines de mélèzes ont été abattus.
Même pendant la Première Guerre mondiale, quand des milliers de soldats avaient besoin de bois, on n'a pas touché à cette forêt.
Avec quelques dizaines de pratiquants du bob en Italie, la piste risque de devenir une cathédrale dans le désert. Mais le chantier le plus problématique est ailleurs. Sur les pentes, le squelette d'un téléphérique qui doit mener aux pistes de ski féminin.
Cette zone est sujette à des glissements de terrain. Elle commence là-haut, à hauteur des bois, elle fait 3 km de long. En profondeur, le terrain bouge de 2 mètres par an selon les analyses. Il y avait deux barres, ils ont été classés en péril.
Selon Pellicolante.
Les lois d'exception pour accélérer les travaux ont permis le lancement du chantier, mais même le maire de Cortina, Gianluca Lorenzi, se tient à distance.
On m'a assuré que même si cette zone était indiscutablement fragile, la construction offre toutes les garanties de sécurité, chacun ses responsabilités, je suis le maire, cela ne relève pas de moi. D'autres assurent que le chantier est sûr, à eux de signer.
Cela sera-t-il fini pour les Jeux ? Ce n'est même pas sûr, au cas où des navettes sont prêtes à emmener les gens en altitude.
Et Bruno, tout n'est pas noir tout de même dans l'organisation de ces Jeux.
La caravane de la flamme dans le village de Taidi Cadore, en aval de Cortina. Ce jour-là, deux tunnels et déviations ont été inaugurés dans la montagne. Les camions ne passeront plus devant chez Gabriella.
C'est sûr, il y aura moins de circulation pour nous qui vivons ici. On pourra profiter d'un air plus respirable.
Sur la centaine de travaux menés dans le cadre des Jeux, la plupart relèvent de l'aménagement des routes et des villes. Il y aura bien un héritage écolo de ce point de vue, même si pour les militants, le rail aurait dû être plus développé. Un autre problème est la neige. S'il en est tombé beaucoup fin janvier, le recours à la neige artificielle est massif. Dans un bar du Val di Fiemme, où auront lieu les épreuves de saut à ski, on retrouve Luigi Casanova, co-auteur d'un livre intitulé « Or fondu sur l'héritage des Jeux ».
Le volume de neige fabriqué correspond à celui de la pyramide de Khéops. Au-delà des coûts énergétiques élevés, d'où vient l'eau ? Ici, dans le Val di Fiemme, on la prend dans les torrents, déjà en stress hydrique. À Livigno, où il y aura le snowboard, ils ont construit un immense bassin de rétention de 200 000 mètres cubes à 2600 mètres d'altitude, sans aucune étude d'impact. Il n'y a pas de JO écolo dans les Alpes.
Les Olympiades ne sont pas sostenibles dans les Alpes.
À Milan, au sein du comité d'organisation, Diana Bianchetti est chargée du dossier de l'héritage des Jeux. Elle répond d'abord sur la neige artificielle.
Qu'il neige ou pas, on doit préparer les pistes en amont avec de la neige artificielle. Il en va de la sécurité des athlètes.
Les sites sportifs existants ont été réaménagés pour les rendre moins gourmands en énergie.
Les Jeux sont le plus écolo possible. Oui, il faut s'adapter au changement climatique, mais le bilan se fera après.
Il y a bien eu plus de travaux que prévu initialement, en témoigne le budget des Jeux passé d'1,5 milliard à plus de 5 milliards. Et sur l'autre grand poste d'émission de CO2, les transports, le trafic aérien doit augmenter de 160% par rapport à l'an dernier, pendant la quinzaine.
Merci beaucoup Bruno Duvic pour le choix de France Info consacré au JO de Milan-Cortina qui, on le rappelle, s'ouvre à partir de mercredi pour les premières épreuves avec la cérémonie officielle d'ouverture vendredi que l'on suivra évidemment sur France Info. Alors, ce n'est pas encore une discipline olympique, mais nous allons ce matin à la rencontre de la championne du monde de bowling catégorie senior. Et elle est française, cocorico. Je vous présente Jacqueline Faure, 76 ans. Elle a été sacrée cet été et elle va tenter cette semaine à Vienne de décrocher cette fois un titre européen. Agathe Mahué, vous l'avez rencontrée à Tarbes dans les Hautes-Pyrénées. C'est là qu'elle habite. Vous l'avez rencontrée à la veille de son départ pour ce championnat en Autriche.
Alors nous voilà au bowling de Tarbes, évidemment, le repère de Jacqueline. Plutôt sereine avant cette nouvelle compétition.
Ça va. Non, je n'ai pas la pression. J'ai 76 ans. Je ne joue pas ma vie.
Pas trop d'entraînement non plus. Jacqueline garde ses forces.
Je peux vous dire que c'est un sport. Parce que la boule, elle fait 7 kilos, qu'il faut l'envoyer jusque là-bas.
Elle dit que le corps souffre au bowling, forcément.
Déjà, il faut normalement plier le genou. Mais moi, il y a longtemps que je ne le plie plus. Il ne peut pas se plier, donc je fais avec.
Et ça ne l'empêche pas de réussir, confirme Jean-Christophe, qui est le patron des lieux, toujours impressionné de l'avoir joué.
Elle a des scores extraordinaires. Elle approche très souvent des 300 points. C'est très rare. Un joueur qui joue correctement va faire 100, 120, 140 points.
Le bowling, c'est technique. Et moi, je ne suis pas technique. Je joue mon jeu, qui n'est pas très académique. J'ai jamais appris à jouer. Mais je joue avec la hargne et l'envie de gagner.
Son mari, Jean-Charles, qui est aussi son coach, septuagénaire également, se réjouit d'avance pour le championnat européen.
Ça peut être que génial. Elle a 8 titres de championne de France, 3 titres de championne d'Europe, 1 titre de championne du monde. Elle sait gagner.
La médaille de championne du monde, elle l'a gagnée cet été.
C'est la cerise sur le gâteau sur ma carrière.
C'est dans les
les années 70 qu'elle a découvert le bowling en parallèle de ses petits boulots.
J'ai pas fait d'études, alors je fais serveuse, je fais du ménage, je fais un peu de tout.
Et elle est tombée amoureuse de ce jeu de quilles.
Ma maman, elle le comprenait pas, elle me disait, mais c'est pas un sport de femme, c'est lourd, c'est difficile. Puis une femme, elle restait à la maison à l'époque.
Mais aujourd'hui, Jacqueline a le soutien de toute sa famille, c'est même son équipe.
Je joue avec ma fille et ma petite fille, donc j'essaye de pas trop leur faire honte. Et ma petite fille, c'est mon capitaine.
Betty et Cathy.
Allô ?
Bonjour.
C'est comment d'être la capitaine de votre mamie ?
C'est pas tous les jours facile. On croise les doigts. On espère qu'elle ramènera encore beaucoup de médailles.
Merci. Allez, bisous.
Allez Jacqueline, on est derrière vous. Merci Agathe Mahué pour ce témoignage à votre micro. France Info, dans deux minutes, l'immense succès des élèves de la Starac. Ce sera dans la playlist de Maureen Suignard. D'abord le roi du strike au bowling, oula, le roi de l'écho aussi. Bonjour Emmanuel Cugny.
Bonjour à tous.
Le réveil de l'écho avec la Banque Transatlantique, maison de gestion de fortune et créatrice d'opportunités.
Toute l'actualité économique avec vous Emmanuel en trois titres. On commence avec le groupe de production français Media One qui rachète un important opérateur de cinéma américain.
Oui, en l'occurrence le studio indépendant North Road, grand nom d'Hollywood. Par cette opération qui doit être finalisée dans le courant du premier semestre, le français Media One, cofondé et dirigé par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Mathieu Pigas, va créer un géant mondial du secteur fournissant séries, films et émissions de télé-réalité ou documentaires à des plateformes comme Netflix. Le coût de l'opération n'est pas dévoilé. En revanche, le volume de production envisagé par cette union, Media One North Road, est évalué à plus de 2 milliards d'euros par an dans une quinzaine de pays.
Une mauvaise passe pour le groupe allemand Bosch.
Illustration concrète du recul de la production industrielle et de la crise du secteur automobile outre-Rhin. L'équipementier allemand annonce une chute de 45% de son bénéfice pour 2025 à 1,7 milliard d'euros contre un peu plus de 3 milliards en 2024 et 5 milliards en 2023. Bosch est en train d'appliquer un vaste plan de restructuration qui prévoit de supprimer quelques 22 000 emplois sur le sol allemand.
Les cours du pétrole reculent fortement sur le marché international.
Et oui, entre hausse et baisse, le prix du baril de brut est très volatile en ce moment, selon les déclarations du président américain Donald Trump. Alors les cours chutent ce matin de 3%. Le baril de WTI, la référence américaine, s'inscrit à 63 $ et le Brent de la mer du Nord, la référence en Europe, est à 67 $ le baril. Réaction directe donc à la volonté exprimée par Trump de trouver un accord avec l'Iran qu'il menace d'une intervention militaire.
Emmanuel Cugny, on vous retrouve dans une demi-heure sur France Info, ce sera le brief éco.
Le SCAF, le futur avion et l'ensemble du système de combat européen n'est pas prêt de voir le jour. Déjà bloqué à cause de différends entre les industriels impliqués, la décision concernant la poursuite du programme est de nouveau reportée. Airbus et Dassault sont montrés du doigt.
Merci beaucoup Emmanuel Cugny, les 5h55 et c'est l'heure de votre playlist du jour, ma chère Maureen Suignard. Et vous nous dites ce matin, alors c'est un scoop, hein, que c'est déjà la fin des cours.
Bah oui William, pas d'erreur de calendrier de mon côté, c'est la fin de la saison au château de Damary-les-Lys. Et voilà, vous dansez, dernière semaine pour la 13e édition de la Star Academy. La finale, ce sera sur TF1 le week-end prochain entre Ambre, 18 ans, et attention, spoiler, Léa aussi âgée de 22 ans seulement. Alors peut-être que vous faites partie de ces personnes qui se pensent un peu au-dessus de tout ça, qui se disent que c'est un télécrochet parmi d'autres. Bien, je vais vous montrer en tout cas que vous avez tort. Et pourquoi ? La Starac, c'est d'abord un énorme succès d'audience. Autour de 3 millions de téléspectateurs pour les primes. Cette saison, des artistes français et étrangers se sont pressés en plateau et au château, conscients de l'énorme exposition que cela représente pour eux. La Starac, c'est aussi bien sûr un succès commercial, tout est bien rodé dans ce type d'émission, c'est le public qui choisit le gagnant, ce qui doit donc booster ensuite la vente de disques et des places de concert, et ça s'est largement vérifié avec Pierre Garnier de la saison 11.
J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était, et je sais qu'ailleurs t'iras chercher.
Pierre Garnier qui, comme les autres vainqueurs, ont signé avec Sony Music son premier titre que l'on entend, Ce qu'on était, est devenu single de diamant en 3 mois. Ça correspond à 50 millions de streams, énorme succès aussi pour son album et il décroche même l'année dernière 2 victoires de la musique. Mais il n'y en a pas que pour les vainqueurs. Elena, Julien Lib ou encore Marguerite se font aussi une place dans la pop française.
Et moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens plus tranquille quand il y a des filles dans la taf. Je préfère les filles, les femmes, les meufs.
Marguerite, produite par la maison de disques Columbia Records, ce label de Sony fait déjà de même avec deux candidats de cette saison, Léo et Jeanne.
Mais ça reprend encore et je respire fort pendant qu'ils s'endorment. Si j'ai tort de réfléchir trop fort, j'angoisse à mort.
La Star Academy est incontestablement devenue un tremplin pour de jeunes artistes. Une partie des candidats va maintenant enchaîner sur la tournée. Une soixantaine de dates dans les arénas, les zéniths du pays et même en Suisse et en Belgique. Plus de 150 000 billets ont déjà été vendus. Alors, est-ce que je refusais de regarder? Oui. Est-ce que la Starac m'a appelé cette année? Oui, William.
Eh ben, très bien, un aveu. Moi, j'étais resté à l'Orange du Marchand, vous vous rappelez? On a des nouvelles de Michal.
Ah oui, alors oui, il y en a certains qui sont revenus cette année. Ah, Michal, il est revenu cette année pour un prime.
Je vais regarder ça avec beaucoup d'attention.
Je vous dirai lequel c'était.
D'accord, très bien. Merci beaucoup, Maureen Suignard, spécialiste de la Star Academy. Il est 5h58, c'est la météo.
France Info Météo, avec la Maison des Travaux. Rénovation, décoration, extension. La Maison des Travaux, un interlocuteur unique pour réussir vos travaux partout en France.
Christine Peña, je suis sûr que vous êtes fan de la Starac, vous aussi.
Oui, bien sûr.
Et vous êtes fan de la neige. Hein,
c'est
vous
plus
nous annoncez...
Jennifer. Hein.
Vous nous annoncez...
Mais dites donc.
C'était il y a plus de 20 ans.
Oui, c'est... Hop.
Allez, déjà. On se concentre. Hein, c'est plus l'heure de la Star Academy, là, tout de même, Maurice Fugnard. Laissez Christine Peña nous parler de ces hauteurs de neige qui sont remarquables dans les Pyrénées.
Oui, les hauteurs de neige inédites dans les Pyrénées pour un mois de janvier, surtout sur l'est de la chaîne, vers les Pyrénées orientales. D'autres chutes de neige sont prévues, d'ailleurs, pour les heures à venir. 1,80 m à Fourmiguère, à Font-Romeu, 1,64 m, dont 64 cm tombés en une seule journée, figurez-vous, c'est un record absolu. Le précédent record datait de 2018 avec 54 cm seulement, en Ariège aussi. Hein. Les valeurs sont remarquables. La neige en montagne, donc, au programme de cette journée, surtout sur les Pyrénées. Les Alpes resteront avec un temps beaucoup plus calme. D'ailleurs, au nord de la Seine, vous trouverez des éclaircies qui vont pouvoir se développer cet après-midi surtout. Et puis, on voit arriver la pluie de nouveau par l'ouest et en Méditerranée aussi, du Languedoc jusqu'aux Cévennes, jusqu'en Provence d'ailleurs. La pluie est au programme.
Merci beaucoup Christine Peña. Lui a fini major de promo à l'Info Académie au château. Piètre imitation Nikos Aliagas. Bonjour Jérôme Chapuis.
J'avais pas reconnu.
Bonjour William. Non, j'avais
vous
pas reconnu.
Au château.
Je suis désolé.